Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce texte-là, il démontre, si vous voulez, que l'idée de ces gens-là, l'idée religieuse de ces gens-là, c'est que les hommes ont été créés, créés par les dieux. Ils ont été créés par les dieux par besoin. Les dieux avaient besoin des hommes. Et en effet, dans toute la suite de l'histoire du pays, toute la religion du pays est axée sur le fait que le culte, le comportement religieux, consiste pour les hommes à offrir aux dieux tout ce dont ils ont besoin. Alors là, si vous voulez, ça commande donc une idéologie tout à fait pratique, connue. Le mythe a abouti à une solution des choses qui était en vigueur et qui faisait partie de l'idéologie religieuse. Alors donc, les hommes ont été créés par inventés et créés par les dieux. Ils ont été créés par les dieux pour leur servir aux dieux à se procurer les biens qu'ils ne pouvaient pas se procurer eux-mêmes puisqu'ils ne travaillaient plus. Encore une fois, ceci commande tout le côté pratique de la religion. D'autre part, l'homme, si vous voulez, fait partie de l'univers. Il est une partie importante, n'est-ce pas, dans l'ordre même de l'univers. Et c'est lui qui est chargé de travailler la terre, de travailler les biens bruts, de manière à offrir aux dieux tout ce qui leur est nécessaire. Bon. Alors, cette idéologie, elle est restée donc dans le pays. Le mythe est chargé de l'introduire là-dedans. Le monde est conçu, donc, d'après le super-sage, le monde est conçu comme un système clos, dominé par les dieux créateurs et maîtres de tout, qui ont créé tout, qui gouvernent tout, et qui nous ont inventés, qui ont inventé les hommes pour les servir. Donc, les hommes sont un des grands rouages de l'univers. C'est une idée noble qui valorise les hommes. Et en même temps, c'est une idée intelligente, n'est-ce pas, et d'une certaine noblesse. Et c'est pourquoi le super-sage, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, et je voulais vous en parler, est un témoin important de la formation de la pensée humaine, l'homme qui a réfléchi sur le pourquoi je suis là, pourquoi nous sommes là, pourquoi le monde existe. Tout ceci a été défini dans un langage poétique et animé, une histoire, par le mythe du super-sage. Et comme je vous l'ai dit au début, cette formulation d'une vision de l'univers dans son essence, dans le fait de ce qu'il est, et dans son histoire, c'est la première fois qu'on le trouve formulé avec tellement de détails et tellement de réflexions dans le super-sage. Si vous voulez, le super-sage, on peut l'appeler avec des guillemets très très épais, c'est le début de notre philosophie. Le début de la pensée des hommes, cherchant à se figurer le pourquoi et le comment de ce qu'ils ont autour d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont autour d'eux. C'est pourquoi d'ailleurs il est extrêmement important. Alors, l'intérêt de ce texte aussi, par rapport à nous, c'est que ce texte a commandé aussi une vision que nous avons encore maintenant, plus ou moins latente naturellement. Parce que ce texte a commandé d'une certaine façon la Bible. Vous savez qu'il y a un certain nombre de mythes, d'idées qui se trouvent couramment dans la Bible et qui, par conséquent, sont venus jusqu'à nous. Au fond, ce sur quoi est bâti notre civilisation, c'est quand même la Bible. La Bible, elle est grecque. Il y en a une moitié au moins qui est proprement biblique. Alors, on a découvert de plus en plus, d'ailleurs, d'allusions, de données. Dans le texte babylonien, n'est-ce pas, on a découvert de plus en plus d'allusions et de données qui se trouvent dans la Bible, comme si les gens de la Bible, les auteurs de la Bible, les avaient empruntées. Ce qui d'ailleurs est normal, parce que la Mésopotamie, comme je vous l'ai dit au début, a illuminé un peu comme un phare tout l'alentour du Proche-Orient. Alors un certain nombre d'idées proprement mésopotamiennes, qu'elles soient originairement mésopotamiennes ou non, mais enfin, élaborées par les Mésopotamiens, sont passées ailleurs, jusque chez les Grecs d'ailleurs, mais aussi dans la Bible. Et vous lisez dans la Bible en pensant à ce que je vous ai dit, vous verrez que le super-sage est passé lui aussi dans la Bible. Il faut vous dire que pendant longtemps, la Bible a été conçue comme le plus vieux livre du monde, le plus grand, n'est-ce pas, écrit par Dieu ou dicté ou inspiré par lui, et qui contenait les réactions sur le début de l'humanité, etc. On l'a cru longtemps, jusqu'au moment où, toujours grâce à la Mésopotamie et au déchiffrement des textes mésopotamiens, en 1872, un des premiers déchiffreurs est tombé sur une tablette où il y avait le récit du déluge, exactement comme dans la Bible, au détail près, naturellement. Alors, on en a conclu, comme le texte cunéiforme était antérieur à la Bible, on a conclu que la Bible avait emprunté. Ce qui est admis maintenant, qui au début a fait un vacarme, enfin, qui est admis maintenant. Alors, c'était le récit du déluge seulement. Le récit du déluge de l'épopée de Gilgamesh, c'est-à-dire le récit second, pas plaqué. Mais ce n'était pas le récit du super-sage, puisque à ce moment-là, on ne connaissait que quelques fragments qu'on a reconnus plus tard être appartenir au super-sage. On n'avait pas le mythe comme nous l'avons maintenant, c'est-à-dire à peu près aux deux tiers, et comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, grâce à la récupération de ce mythe, presque entier, pas entier, mais suffisamment entier pour que nous le connaissions, nous le comprenions, grâce à cet effort, à cette réussite, nous n'avons pas seulement le déluge emprunté par la Bible, mais vous allez voir que nous avons aussi le super-sage, en un sens. Je vais vous rappeler ce que je vous ai dit en vous expliquant le texte pour le comparer à la Bible. Dans le super-sage, comme dans la Bible, mais j'y reviendrai après pour marquer les différences, il y a un certain nombre de points communs. Et ces points communs, il y en a trop pour que ça ait été inventé indépendamment l'un de l'autre. Il y en a trop, et non seulement trop, mais dans le même ordre, et dans la même importance, on ne peut pas imaginer qu'ils aient été imaginés deux fois, créés deux fois. On est obligé de penser que ça a été emprunté par le plus jeune. Le plus jeune, c'est la Bible, actuellement. Alors, je vous résume. Qu'est-ce que nous trouvons dans le super-sage? Vous avez, d'abord, la création de l'homme par Dieu ou les dieux. Vous avez, l'homme est créé, modelé d'argile. L'homme est créé avec addition d'un élément divin. L'homme, il est créé pour travailler la terre, pour travailler le sol et fournir aux dieux, etc. L'homme est créé mortel. Fait d'argile à cause de ça. On suppose, c'est ce qui vaut d'ailleurs le vacarme qui empêche Enlil de dormir, on suppose l'existence de toute une série d'hommes à la vie très très longue. Sans quoi c'est pas compréhensible. S'il meurt rapidement, il y a moins de bruit, il y a moins de foule. Puis le déclenchement d'une catastrophe universelle, le déluge, c'est dans le pays, qui a anéanti tous les hommes. Et en plus, tous les hommes sauf un. Tout ça s'ajoute, n'est-ce pas, au point de ressemblance. Sauf un qui doit assurer la relève. D'autre part, il y a un récit détaillé, que je ne vous ai pas lu naturellement, du déluge et de sa suite. Et on voit, dès la fin du déluge, le rescapé qui sort de son bateau et dont le premier soin est d'offrir un repas aux dieux. Après quoi reste l'état des choses post-diluvien, si vous voulez, avec la perspective de n'avoir plus à attendre une pareille catastrophe. Voilà. Alors tout ça, encore une fois, si vous calculez bien, vous le trouvez dans les 6 ou 7 premiers chapitres de la Genèse. Vous savez que la Genèse comprend deux récits de la création du monde et de l'homme. Le premier chapitre, le plus fameux, est le plus récent. Il a une vision un peu particulière, d'ailleurs. Et le plus ancien commence au chapitre 2 de la Genèse, au verset 4, je crois. Et c'est lui qui touche de plus près au récit mésopotamien. Alors, tout ce que nous voyons là-dedans, nous le retrouvons donc dans la Bible à partir du chapitre 2, verset 4 de la Genèse. Nous trouvons là aussi l'homme créé par Dieu. Il est modelé d'argile, avec addition d'un élément divin. Il est créé pour travailler la terre. Il est créé mortel. Il y a dans sa lignée toute une série d'hommes anciens à la vie très très longue. Il se déclenche une catastrophe universelle, le déluge, qui est raconté d'un côté comme de l'autre, n'est pas dans les mêmes termes. Par exemple, il y a un détail qui ne s'invente pas deux fois, c'est lorsque Noé veut savoir si l'eau a fini par disparaître et la terre apparaître, il envoie successivement 3 oiseaux, de manière à se disant, n'est-ce pas, si tant qu'il y a de l'eau, ils reviendront. Ils reviennent, en effet. Le troisième ne revient pas parce qu'il a trouvé la Terre. Bon, ça, c'est un truc qui ne s'invente pas deux fois, naturellement. Alors donc, déclenchement d'une catastrophe universelle qui anéantit tous les hommes, sauf un, et qui est décrite dans les mêmes termes que d'un côté comme de l'autre. Et après quoi, n'est-ce pas, il y a, après ce récit détaillé du déluge et de sa suite, on voit Noé, puisqu'il s'appelle Noé dans la Bible, qui, au sortir de l'arche, offre un sacrifice à Dieu. Et après quoi, Dieu garantit qu'il fait l'arc-en-ciel, il n'y aura plus jamais une catastrophe pareille. Alors cet ensemble, si vous voulez, ce plan général du super-sage, se trouve donc exactement dans la Bible, et il y a toutes les chances du monde pour que la Bible les emprunte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'a pas emprunté brutalement, et mot à mot. Elle l'a profondément transformé en l'empruntant. Par exemple, l'homme est créé par Dieu. Il est créé par Dieu, qu'un grand D, et non pas un Dieu. Parce qu'il faut vous dire que les gens de la Bible avaient une religion bien à eux, qui a été mise au point et propagée par Moïse, vers 1200, à peu près avant notre ère, et qui était la suivante. Premièrement, Dieu était unique. Ce n'était pas encore la croyance au monothéisme absolu qui est venue plus tard. C'était ce que les historiens des religions appellent énothéisme. Dans le monothéisme absolu, il n'y a absolument parlant qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Dans l'énothéisme, les gens ne s'attachent qu'à un seul Dieu, il y en a d'autres, mais ils ne s'en occupent pas. C'est le cas de Moïse. Pour lui, Israël doit s'attacher à un seul Dieu. Il n'y a que lui qui compte. Bien. Donc, c'est un seul Dieu qui crée l'homme. Ce n'est pas un des dieux, ce n'est pas Enkea, n'est pas le plus malin de tous, mais c'est Dieu lui-même, le Dieu unique. Alors, l'homme est modelé d'argile, c'est marqué exactement aussi dans la Bible. Mais avec addition d'un élément divin qui ne pouvait pas, dans la Bible, être le sang de Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Le sang divin, c'est le sien. Pas question, naturellement. Et en même temps, cette idée de sang, quelque chose de charnel, de lourd un petit peu, alors la Bible le remplace par quelque chose de spirituel, de plus aérien, en quelque sorte, le souffle. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui insuffle la vie. C'est d'autant plus vrai que dans la Bible, la vie était causée par le souffle. Il y a la fin du livre de l'Ecclésiaste l'explique très bien. Le souffle, l'homme l'inspire et l'expire. Alors, quand il inspire, il lui est donné par Dieu. Après, il le rend à Dieu. Et tant que Dieu continue de le lui fournir, en quelque sorte, qu'il inspire à nouveau, il vit. À partir du moment où Dieu le retient et ne le donne plus, c'est la mort. Alors, l'homme est créé dans la Bible, comme dans le super-sage, l'homme est créé, dit le texte, pour travailler la terre. Mais Dieu n'en a pas besoin, il ne le crée pas pour lui. Nulle part, Dieu n'est motivé dans sa création de l'homme par le fait qu'il aura besoin de l'homme. Et il le fait pour travailler la terre, parce que la vocation de tous les hommes à ce moment-là, c'est de travailler la terre, normalement. Alors donc, voyez-vous, ici aussi, il y a la Bible emprunte, mais change les choses, en vertu d'une idéologie. Il n'est pas concevable que Dieu ait besoin des hommes. Dieu n'a pas besoin de manger, d'avoir des temples, etc. Et par conséquent, il ne crée pas pour lui, il crée l'homme pour sa vocation normale qui est de travailler la terre. Ensuite, l'homme, naturellement, est créé mortel. Il doit mourir, comme dans le super-sage, dans la Bible aussi. Et la Bible fait allusion un peu plus loin, au chapitre 4 de la Genèse, à ces vieux patriarches qui vivent 500, 600, 800 et 1000 ans, dont Mathusalem, fameux, etc. Alors, il y a donc dans la Bible le souvenir, aussi dans la Bible, comme en Mésopotamie, souvenir de toute une génération d'hommes qui avaient une vie tout à fait longue, c'est resté là-dedans. Et dans la Bible aussi, il y a le déclenchement d'une catastrophe universelle. Mais la différence, c'est que cette catastrophe, ce déluge dans le super-sage, il est motivé par le fait qu'Enlil en a assez de ne pas pouvoir dormir. Il est irrité, il est insomniaque, alors il supprime les hommes pour ne pas faire de bruit. Mais Dieu ne dort pas. Le Dieu de la Bible ne dort pas, il n'a pas sommeil. En revanche, c'est un Dieu moral. Le Dieu de la Bible, il n'est pas seulement unique, mais sa seule exigence, il ne veut pas de sacrifice, il ne veut pas qu'on lui offre des bœufs, des trucs de quoi manger, etc. Il ne veut rien. Ce qu'il veut, c'est que les hommes se conduisent bien. C'est un Dieu moral. Alors, dans la motivation du déluge, cette idéologie biblique opposée à l'idéologie mésopotamienne se comprend très bien, elle aussi. puisqu'au début du déluge, on dit que Dieu regarde la terre, il la trouve corrompue. Il en a assez de ces hommes qui font du mal, etc. Alors, il veut créer une nouvelle génération qui évitera les horreurs qu'il a vues là-dedans. Donc, le déluge n'est pas motivé par le sommeil de Dieu, naturellement, qui ne dort pas, mais il est motivé par la volonté morale de Dieu. Et d'autre part, dans le déluge du super-sage, c'est à cause d'une ruse du Dieu qui a créé les hommes, de Ea, qu'il y a quelqu'un qui échappe à la mort et qui pourra relancer un peu la suite des hommes. Tandis que dans le déluge biblique, c'est Dieu qui choisit librement, on ne roule pas. Il choisit librement quelqu'un qui jouera ce rôle. En plus, lorsque le déluge est fini, le super-sage offre au Dieu, dans le super-sage, il offre un bon repas. Dans la Bible, il offre un holocauste, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas mangeable, qui est brûlé, dont on ne sent que l'odeur. Là aussi, il y a une volonté, si vous voulez, de spiritualisation, disons le mot, si vous voulez, avec des minuscules, mais enfin, c'est quand même ça, naturellement. Alors, vous voyez, le super-sage nous permet de le retrouver dans la Bible, mais non pas transposé matériellement, mais profondément transformé et imbibé de l'idéologie religieuse de la Bible elle-même, c'est-à-dire monothéisme moral. C'est-à-dire que ce texte que je voulais vous lire, parce que c'est la première fois que l'homme s'est fait une philosophie du cosmos qui est intelligente, qui est noble, tu vois. J'y ajoute l'avantage supplémentaire, si on peut dire, c'est que non seulement c'est le plus vieux exercice de philosophie religieuse, si vous voulez, mais en même temps, c'est la plus vieille source d'une certaine mentalité que nous avons plus ou moins encore à cause de la Bible.